Depuis plusieurs mois, leur nom s'est fait connaître auprès des médias, du grand public, mais aussi des services de renseignement, les Soulèvements de la Terre. Ce collectif est à l'origine, entre autres, de la mobilisation de Sainte-Soline contre les méga-bassines, qui a réuni 30 000 personnes dans les Deux-Sèvres en mars dernier. Ce mouvement, surveillé, traqué, criminalisé, est clairement dans le viseur de l'État, et en particulier du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui l'a qualifié d'éco-terroriste. Fin mars, il annonçait vouloir le dissoudre, mais pour le moment, l'association reste toujours active. Ce collectif marque en tous les cas un tournant dans la lutte écologiste avec des modes opératoires plus offensifs qui assument la destruction de biens matériels au nom du dérèglement planétaire et de l'urgence climatique. Il fait l'objet d'un soutien qui dépasse largement le cercle des militants environnementaux et dans un livre qui paraît au Seuil et qui a été composé dans l'urgence après la menace de dissolution. 40 voix venues du monde de la science, de la philosophie ou de la littérature s'expriment sur les moyens concrets d'organiser la résistance. Qui sont les Soulèvements de la Terre? Qu'est-ce qui caractérise leur mode d'action? Et jusqu'où pourraient-ils aller pour exprimer leur colère? Ce sont les questions que nous allons leur poser cet après-midi. Florian Lemerle, Léna Lazare et François Jarige. Bonjour,
bonjour à tous les trois.
Bienvenue Florian Lemerle et Léna Lazare. Vous êtes tous les deux activistes et militants au Soulèvement de la Terre. Et François Jarige, vous êtes historien, maître de conférences à l'Université de Bourgogne. Vous avez signé un texte justement dans ce livre qui paraît au Seuil, aux côtés de personnalités comme Valérie Masson-Delmotte, Philippe Descola, Alain Damasio ou Virginie Despentes. On va se retrouver dans un instant pour parler donc de ce tournant aussi dans le militantisme et vous répondrez aux messages des auditrices et des auditeurs qui arrivent sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter. 14h30, Camille passe au vert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Avec aujourd'hui la goélette Tara qui a parcouru tout l'océan Pacifique pendant 2 ans et livre ses découvertes assez fascinantes.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Pauline Laverdure à la technique.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Plusieurs dizaines de personnes avançant masquées en combinaison blanche à l'assaut d'une cimenterie sur le site Lafarge de Bouc-Bel-Air.
Imaginez cette centaine de personnes, certains armés de haches, armés de barres à mine, rentrés de manière massive par effraction sur le site et saccager systématiquement tout ce qu'ils ont rencontré. Ça a été vraiment d'une violence énorme. Notre personnel était là. Heureusement, il n'y a pas eu d'altercation physique.
C'est pour dénoncer la pollution que les militants ont attaqué cette cimenterie. Le site figure parmi les 50 plus grands émetteurs industriels de CO2 en France. Ces derniers mois, Lafarge avait inauguré sur ce site un nouveau système de filtrage pour réduire ses émissions polluantes.
C'était le 10 décembre dernier, donc près de Marseille, opération menée par un collectif d'organisateurs et dont les Soulèvements de la Terre ont relayé le message. On ne dissout pas un soulèvement, car on voit donc pour ces Soulèvements de la Terre, on en parle cet après-midi dans la Terre au Carré avec nos invités. Lundi, on apprenait justement qu'une vague de perquisitions avait été organisée à travers toute la France suite à l'introduction par effraction de militants sur ce site de Lafarge. Au moins une quinzaine de personnes ont été donc perquisitionnées simultanément dans plus de 10 communes, puis placées en garde à vue. Certaines, Léna Lazare, sont encore en garde à vue au moment où on se parle.
Oui, la majorité sont encore en garde à vue. 13 personnes sont encore en garde à vue.
Les Soulèvements de la Terre ne sont pas à l'origine de l'opération qui s'est passée à Marseille, là, avec Lafarge?
C'est une action qui n'a pas été revendiquée, mais qui a été envoyée à plusieurs médias alternatifs et à plusieurs collectifs. Et c'est vrai que nous, lorsqu'on a reçu le communiqué et les images, on a trouvé que c'était une action totalement salutaire et qui allait totalement dans le sens aussi de ce qu'on portait. Donc on a décidé de la relayer massivement et c'est aussi pour ça que on soutient bien entendu les militants qui sont actuellement en garde à vue. À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'opération contre les militants écologistes de cette ampleur guidée par les services antiterroristes. Oui. On parle quand même d'une action de désobéissance civile, certes avec des dégradations matérielles, mais qui n'a rien à voir avec du terrorisme. Et là, les personnes sont en garde à vue depuis plus de 72 heures, donc un traitement d'exception qui normalement n'est réservé qu'à des personnes qui ont commis des actes terroristes.
Ces personnes seraient accusées de destruction en bande organisée, association de malfaiteurs en lien avec une action de désobéissance donc menée le 10 décembre dernier. Les services antiterroristes, effectivement, qui d'ordinaire s'occupent plutôt de nationalisme corse ou de terrorisme islamiste, ont été mobilisés pour cette opération. Qu'est-ce que ça vous inspire, François Jarige?
Ça m'inspire qu'on vit dans un moment quand même parfaitement sidérant, parfaitement contradictoire. Le béton est un produit qui est mis en cause pour ses responsabilités environnementales. L'entreprise Lafarge est accusée d'avoir soutenu le terrorisme au Proche-Orient. Et c'est les militants qui pénètrent sur ce site pour alerter sur les dangers du béton, sur la poursuite de ce processus de bétonisation du monde qui sont mis en cause.
Ils ne font pas qu'alerter. Hein. Ils arrivent aussi avec des haches, des baramines. Et ils saccagent pour 4 millions d'euros quand même
les lieux. Hein. Parce qu'il y a un moment... les discours des intellectuels, les analyses des scientifiques tournent à vide. Vous savez, c'est quand même fascinant de discuter aujourd'hui avec des scientifiques qui alertent depuis des décennies sur les ravages environnementaux aujourd'hui, de les écouter si déprimés de l'incapacité du pouvoir politique à prendre en charge leurs alertes. Donc il est tout à fait normal, tout à fait naturel et tout à fait sain d'un point de vue démocratique que des citoyens s'organisent, s'engagent et aillent jusqu'à certaines formes d'action qui peuvent être considérées
comme violentes. C'est clairement violent.
Mais on en reparlera, mais vous savez...
Et hors la loi aussi.
Oui, bien sûr, mais vous savez, on en reparlera. La question de la violence, c'est une question qui a traversé toute l'histoire des luttes sociales, toute l'histoire des mouvements sociaux. C'est une histoire de qualification, d'interprétation. Violence pour qui? Violence pourquoi? C'est-à-dire que ça nous saute aux yeux que le monde est violent aujourd'hui, que le monde est travaillé par des violences de tous les côtés. Et à moi et beaucoup d'autres, on considère que ces violences-là, finalement, relèvent d'une sorte d'urgence de la mise en débat dans l'espace public de questions dont on ne parle pas assez.
Ouais, Florian Lemaire, là, justement, il n'y a pas assez de débat aujourd'hui. Selon vous, on n'écoute pas assez les militants écologistes, c'est la raison pour laquelle il faut arriver, comme le font les soulèvements de la Terre, à des actions violentes que vous revendiquez comme telles.
Alors oui, comme vient de le dire François, je pense que le terme de violence, il est à débattre, puisqu'il peut revêtir plusieurs réalités. Effectivement, moi je pense qu'il n'y a pas assez de débat, et surtout qu'il y a une participation active en réalité de l'État dans le ravage écologique en cours. Ça, il faut le dire, c'est pas juste de l'inaction climatique, comme on l'entend régulièrement. Et là, de plus en plus, il y a des discours qui sont portés dans les médias, qui pointent justement la responsabilité de l'État dans la situation actuelle. Et par exemple, sur l'usine de Bouc-Bel-Air, c'est une usine qui a dépassé ses quotas de pollution largement pendant des décennies grâce à des dérogations préfectorales.
En même temps, ils ont installé des filtres, on l'entendait là dans le sujet tout à l'heure, pour essayer d'émettre moins de CO2, mais vous jugez que ça n'est pas encore suffisant, loin de là ?
Bah, quand bien même ils auraient installé des filtres, ça n'enlève rien à la réalité qu'ils aient pollué pendant des décennies grâce au concours de l'État. Et en fait, cette réalité-là, on la retrouve partout. En fait, si les méga-bassines existent aujourd'hui, c'est parce que l'État le souhaite. Et voilà, c'est une autre lutte sur laquelle on est engagé. Donc, effectivement, quand il n'y a pas de participation, quand l'État prend un rôle décisif et que les gens ne trouvent pas de voie pour agir dans les instances qu'on pourrait qualifier de légalistes, forcément qu'il y a des gens qui s'organisent pour désarmer des infrastructures industrielles.
L'ENA, Lazare, le collectif donc des soulèvements de la Terre, mène des actions assumées, hein, de désobéissance civile, de destruction d'infrastructures industrielles que vous considérez comme dans ce cas, hein, polluantes, et vous employez le terme de désarmement pour légitimer ces actions. Ce terme inquiète beaucoup les autorités. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Parce qu'on pourrait parler de sabotage, vous pourriez revendiquer du vandalisme, du sabotage. Vous préférez employer ce terme de désarmement. Pourquoi ?
Parce que ce terme de désarmement, plutôt que le terme de sabotage, qui est quand même un terme aussi très riche historiquement, l'idée, c'est pas totalement de l'écarter. C'est de dire qu'en fait, il y a une arme qui est braquée contre nous et que l'idée, c'est que voilà, nous, on est en train de désarmer un système écocidaire qui nous broie, une machine qui broie le vivant, et que on réagit à une violence, justement. Que le sabotage, on pourrait se dire, ah, mais en fait ils sont dans l'offensive, et moi je pense que on est sur la défensive, on fait tout en fait pour rester sur une planète habitable. Et bien entendu, comme l'a dit Florian très clairement, ça fait 50 ans, et comme tu l'as dit François, ça fait 50 ans que les scientifiques alertent, que les pouvoirs politiques et économiques continuent en fait de mener une politique destructrice du vivant. Et nous, on pense au sein des soulèvements de la Terre que la seule manière qu'on a d'endiguer le désastre, c'est aussi collectivement justement de démanteler les infrastructures polluantes.
En tout cas, dans vos arguments et dans votre rhétorique, il y a toujours cette idée de montrer que la violence, elle n'est pas du côté des militants, mais elle est du côté de l'État. Et ça, François Jarige, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement, et c'est ce qui vous paraît être même le cœur finalement de l'activisme aujourd'hui.
Oui, mais vous savez, vous avez employé toute une série de termes. Vandalisme, sabotage, désarmement. C'est-à-dire que le vocabulaire ne cesse de changer. On est obligé de faire preuve d'inventivité linguistique pour caractériser les enjeux du présent. Vandalisme, c'est un terme qui a été forgé après la Révolution française pour disqualifier les expériences de la Révolution française en la renvoyant à l'action de barbares, de sauvages qui auraient détruit les monuments historiques. Donc ça, dès l'époque, dès le début du 19e siècle, hein, on a inventé ce mot pour disqualifier des formes d'action collective. Donc à toute époque historique, il y a des stratégies pour disqualifier des formes de l'action collective. C'est pas juste l'État, c'est l'État qui aujourd'hui, visiblement, manifestement, est le bras armé, le principal soutien d'un certain nombre d'acteurs économiques qui font tout pour empêcher les transitions environnementales et écologiques. On vit dans un moment paradoxal où il n'y a jamais eu autant d'appels à la transition écologique et aussi peu d'actions effectivement réalisées pour l'engager. Et donc, face à cette contradiction, il est inéluctable que des militants, des activistes, des intellectuels, des scientifiques essayent de réfléchir à d'autres répertoires d'action, d'autres méthodes d'action, qui passent par un continuum de pratiques, depuis les plus pacifiques, les plus légales, pétitions et autres, jusqu'à des formes d'action qui peuvent devenir plus ou moins violentes et qui font là l'objet de querelles pour désigner ce qu'est la violence. Mais vous avez aussi employé un autre mot à propos de l'industrie du béton, le filtre. Et ça, c'est pareil, l'histoire du filtre. Il faudrait faire toute une émission sur les filtres, parce que les filtres, c'est ce qui a permis d'installer le monde industriel. C'est-à-dire qu'à chaque problème de pollution qui était dénoncé par les activistes, on a mis des filtres. Et depuis le 19e siècle, les cheminées fumaient, on a mis des filtres. C'est-à-dire que c'est une manière de ne pas poser le problème, de le repousser via des solutions techniques miraculeuses. C'est-à-dire le béton vert, aujourd'hui, il y a une opération de communication considérable du secteur du béton pour verdir le secteur du béton, via des filtres, en utilisant des combustibles qui seraient plus propres. Mais, et là, on voit bien que c'est de l'enfumage et que c'est du greenwashing. Et les gens, la population, les intellectuels, les scientifiques qui essayent, qui bossent sur ces sujets-là, ne supportent plus le greenwashing ambiant qui paralyse toute action réelle.
Alors, on le disait tout à l'heure aussi en présentation, aujourd'hui, les soulèvements de la Terre n'intéressent pas que des militants écologistes, et c'est aussi l'objet de ce livre, avec ses 40 voix pour les soulèvements aux éditions du Seuil, parce que vous réussissez justement à fédérer autour de vous des scientifiques et pas des moindres, hein, comme par exemple Valérie Masson-Delmotte, des intellectuels comme Philippe Descola, des auteurs, des autrices. Et ça, c'est important aussi pour vous, pour donner de la légitimité à votre mouvement, Léna Lazare.
On a dû se poser cette question de la légitimité, malheureusement, lorsqu'il y a eu l'annonce de dissolution. On savait très bien qu'on était soutenu par une part large de la population, parce que les soulèvements de la Terre, bon, c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté de manière un peu plus formelle, mais on est une dynamique donc contre l'agro-industrie et l'accaparement des terres, qui est portée depuis le début par plus d'une centaine de collectifs du mouvement climat, du monde paysan.
Donc c'est une coalition, hein,
en oui, fait. Oui, en fait, c'est une coalition qui propose des actions nationales. Et donc, depuis le début, on sait qu'on représente une part large de la société. Mais via l'annonce de dissolution, Darmanin et l'exécutif voulaient justement faire croire qu'on était un groupuscule d'ultra-gauche, des éco-terroristes. En fait, c'est une stratégie qui est utilisée depuis longtemps lorsque des activistes sont un peu trop gênants, d'essayer de les isoler au maximum. Donc voilà, en disant qu'ils sont extrêmement violents, etc. Et de faire en sorte que des personnes et des groupes se désolidarisent d'eux. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que justement, on a dit maintenant, vous pouvez adhérer au soulèvement de la Terre. 100 000 personnes ont adhéré. Et que, bien entendu, on a accepter tous les soutiens de personnes qui nous suivaient parfois depuis plus longtemps, qui étaient actives dans le mouvement.
Avec ces textes, du coup, voilà. Et qui ont été aussi écrits dans l'urgence. En tout cas, il y avait besoin, très clairement, Florian Lemerle, de donner aussi un contenu.
Oui. Bah oui, je pense au-delà des actions comme le dit Léna qu'on organise qui sont de plus en plus massives, par exemple avec les méga bassines comme vous l'avez dit en introduction le 25 mars dernier où on était 30 000 personnes. Il y a quand même la volonté de mettre un peu par écrit ouais. Des réflexions qui nous traversaient, qui traversent depuis longtemps en fait le monde de la recherche. On est assez proche de la revue Terrestre, voilà où il y a beaucoup de personnes qui rédigent dans cette revue et c'est des réflexions qui nous portent et voilà.
Donc ce livre sortira demain, exactement, avec ses 40 voix pour les soulèvements de la Terre. Vous savez que tous les auditeurs et auditrices de France Inter, évidemment, n'approuvent pas la violence de vos actes. Et je pense que nous aurons des messages en ce sens que je vous transmettrai dans un instant pour la deuxième partie de ce dossier.
La Terre au carré, sur France Inter.
Au fond, l'anthropologie et des expériences alternatives comme celle de Notre-Dame-des-Landes montrent que d'autres manières de vivre sont possibles, que d'autres futurs aussi sont possibles. Notre présent qui paraît éternel, interminable, qui est celui du capitalisme marchand, n'est peut-être pas la destinée finale de toute l'humanité et qu'on peut changer les choses et qu'on peut aussi envisager d'autres manières de vivre ensemble sans dévaster la planète et en tissant des liens plus accommodant, disons,
avec les non-humains. Hein. Oui. La voix de Philippe Descola, c'était le 4 octobre dernier à ce micro. Il signe donc lui aussi un texte dans cet ouvrage. On ne dissout pas un soulèvement qui sort au seuil. Il signe même la première entrée sur les accaparements. François Jarige, Philippe Descola qui sort de son amphi à la fois pour se mobiliser, hein, puisqu'il a été assez présent à Notre-Dame-des-Landes, qui à nouveau donne sa voix dans ce livre. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de ce mouvement ?
Ben, ça dit qu'il y a une urgence, qu'il y a la nécessité de sortir de sa tour d'ivoire académique et universitaire dans laquelle beaucoup d'universitaires, y compris qui travaillent sur ces questions, s'enferment parce que le monde universitaire est rentré dans une logique d'hyperspécialisation, de prudence, la volonté de ne pas apparaître comme un militant qui disqualifierait son travail. Philippe Descola est une figure majeure du champ intellectuel. C'est l'héritier de Lévi-Strauss au Collège de France. C'est l'un des grands penseurs de l'anthropologie à l'échelle mondiale. Philippe Descola a eu un compagnonnage avec Notre-Dame-des-Landes, il a accompagné, il a vu dans cette expérience aussi impossible, comme il le dit très bien dans l'extrait, là, impossible, d'autres formes de vie en acte qui s'expérimentent. Ouais. C'est pas juste, les soulèvements de la terre, c'est pas juste de la violence, hein, c'est d'autres formes de vie qui s'expérimentent, c'est des liens qui sont tissés entre plein de gens qui étaient un peu atomisés et qui se retrouvent. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on est dans un moment de basculement, et ça nous dit qu'un certain nombre de personnes trouvent ça insupportable que quelqu'un comme le ministre de l'Intérieur Darmanin se permette de tenir des discours aussi caricaturaux que ceux qu'il a tenus lors de la menace de dissolution, et quelqu'un comme Philippe Descola, qu'on ne peut pas accuser d'être un radical, un ultra-violent, un ultra-gauche, tous ces termes qui ne veulent rien dire en réalité, lui-même a choisi de s'engager et de soutenir cette lutte-là. Et je pense que ça nous dit beaucoup. Et dans le livre, il y a d'autres figures importantes du champ intellectuel, des gens qui ont une carrière académique derrière eux et qui choisissent, au terme de cette carrière académique, de la mettre au service de ces luttes sociales et de ces engagements.
Pour l'instant, il n'y a pas de dissolution. Hein. On en reparlera également avec vous.
C'est pas une association, hein, les soulèvements de la Terre. C'est un mouvement.
Un collectif, en tout
collectif,
cas.
Collectif, hein, qui est en...
Florian Lemerle, justement, est-ce que vous n'avez pas peur quand même que la violence masque tout le reste de vos intentions, de vos messages, de vos actions, et que finalement, vous provoquiez tellement d'agacement, de haine par rapport à vos modes opératoires qu'on n'entende plus le reste ?
Sur cette question-là, je vais dire deux choses. La première, c'est que nos mobilisations ne vont qu'en s'amplifiant. En réalité, depuis qu'on existe...
Vous êtes combien de membres ? Vous arrivez à l'estimer ou pas ?
Là, en tout cas, il y a 100 000 personnes qui sont déclarées comme membres des soulèvements de la Terre. Et de la dernière action, le 25 mars, contre les méga-bastions, on était 30 000 personnes, alors que 2 ans avant, on était 400. Donc du coup, c'est quand même une progression phénoménale. Et puis après... sur le fait d'être caricaturé, voilà, en tout cas que la violence recouvre un peu tout le reste. C'est une volonté aussi de Gérald Darmanin, de l'État, de nous coller cette image-là dessus, enfin sur notre mouvement. Et de ne pas parler de sujets de fond, justement.
Mais à quel moment, justement, vous parlez des sujets de fond ? C'est-à-dire que vous consacrez beaucoup de temps à organiser des opérations, il y en a encore qui sont en prévision là dans les jours, dans les semaines qui viennent, mais à quel moment vous avez justement du temps pour dialoguer, échanger, débattre, Léna Lazare, sur ce qui vous motive, justement, sur l'accaparement des terres, par exemple, ou le climat ?
Au quotidien, on est engagé personnellement dans des luttes locales. Moi, il se trouve que ma mère habite non loin des premières méga-bassines, donc c'est un sujet que je connais bien depuis longtemps. Et moi, je passe énormément de temps dans le Marais Poitevin avec les paysans, aller aussi discuter avec des personnes avec qui on est moins d'accord. On a le nez dans les dossiers juridiques. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, il y a un peu les actions qui font parler d'elles, mais derrière, il y a tout un travail. Et comme on l'avait dit, la lutte, c'est jamais que des actions... direct des actions de désobéissance civile, il y a les recours juridiques, il y a la mobilisation.
Et ça vous occupe à plein temps ?
Moi, en ce moment, ça m'occupe à plein temps, mais aussi parce que j'ai la chance d'être à mi-temps dans une association écologiste. Encore un petit moment avant de m'installer en tant que paysanne, entre mon diplôme et mon installation, vu que j'étais assez jeune et que c'était un peu tôt quand même pour s'endetter en achetant une ferme, je me suis dit, bon, je vais aussi travailler dans le secteur associatif. Et bien entendu, oui, ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, mais heureusement, on n'est pas tous des militants professionnels dans les soulèvements de la terre. Il y a des paysans, il y a des gens qui ont des impératifs familiaux, etc. Enfin, tout le monde y met le temps qu'il peut.
Allez, des messages, ils sont très nombreux à arriver sur franceinter.fr. Philippe nous dit toujours les mêmes sophismes et les mêmes rhétoriques fallacieuses qui aboutiront à la légitimation de la violence, ce dont rêve le FN et qui vous feront regretter Darmanin. Que répondez-vous, François Jarige ?
Sur cette question, c'est dommage que le débat se polarise sur la violence. Bon, c'est moi-même qui en ai parlé, mais en fait, J'ai participé à quelques manifestations des soulèvements de la Terre, comme beaucoup d'autres gens, et il n'y avait pas de violence. C'est des manifestations parfaitement pacifiques. Sainte-Soline, il y avait 3500 policiers qui ont envoyé 5000 gaz lacrymogènes.
Une grenade toutes les deux secondes.
Une grenade toutes les deux secondes. Donc la question de la violence, il faut
Il y avait aussi des baramines, des marteaux du côté des militants.
Mais quand il y a tellement de monde, évidemment, il y a toujours quelques militants qui viennent et qui veulent en découdre plus directement avec les forces de l'ordre. Mais l'essentiel des manifestations et l'essentiel des gens qui vont dans ces manifestations ne sont pas du tout violents et ne veulent pas faire preuve de violence. Par ailleurs, il faut dire autre chose. Ce qu'on appelle les soulèvements de la Terre, attention, c'est une coalition d'une multitude de luttes locales. Aujourd'hui, dans la société française, il existe partout sur le territoire des gens qui refusent un contournement autoroutier, qui refusent une nouvelle usine polluante, qui refusent telle ou telle chose, qui est poussée avec les mêmes arguments traditionnels de l'industrialisation, de la relance, de la croissance, alors que tout ça est contradictoire avec toutes les alertes sur le climat et sur les crises écologiques de tous les côtés. Donc il y a un moment, il faut être cohérent. Il faut être cohérent et engager une politique de transformation de nos infrastructures, de faire d'autres choix techniques, d'autres choix politiques. Les soulèvements de la Terre sont juste des gens qui poussent les élus, les gouvernements à aller dans la direction de cette transition écologique. La violence est une petite dimension très marginale et très minoritaire de toutes ces luttes locales qui sont toujours pacifiques, qui s'accompagnent de rencontres, de réunions publiques, de débats infinis. Il y a plus de 600 luttes locales aujourd'hui en France, partout sur le territoire. Et en fait, les soulèvements de la Terre, c'est quoi? C'est donner de l'unité à ces luttes éclatées. Et c'est ça. Et pour moi, c'est l'une des meilleures nouvelles des deux dernières années, parce qu'il se passe quelque chose et toutes ces luttes éclatées, où les gens avaient le sentiment d'être seuls, et ben désormais, ils ont le sentiment qu'ils sont plus seuls et qu'ils participent à un mouvement commun. Et ça, c'est très fort.
Clément nous écrit, les écolos ne me plaisent pas, alors je vais monter un collectif pour les attaquer à coups de baramine au nom de la liberté de chacun de régler ses comptes soi-même. Florian Lemerle, est-ce que la violence n'incite pas encore la violence?
Alors en tout cas, nous on n'appelle pas à la violence contre les personnes. Donc voilà, bah, si cette personne, enfin, pour le coup, ça tombe sous le coup de la loi. Mais je veux dire, c'est... Enfin,
la destruction de biens aussi, ça tombe sous le coup de la loi.
Oui, mais en tout cas, nous, on n'est pas violents envers les personnes.
Peut-être qu'on peut parler des agressions qu'on a subies. Enfin, oui, c'est intéressant, en parlait, mais en fait, les militants écologistes, on se fait constamment attaquer. Peut-être que des personnes ne sont pas d'accord avec les modes d'action des soulèvements de la Terre, qui sont, du coup, je rappelle, les occupations, les blocages et les actions de désarmement, donc de démantèlement d'infrastructures polluantes. Mais nous, en face, qu'on se prend, c'est de la violence physique. L'agro-industrie, on le sait très bien, c'est des personnes qui vont déboulonner les véhicules de journalistes qui emmènent, enfin, il y a pas longtemps, il y a eu Morgane Large qui emmenait sa fille à l'école le matin, elle s'est rendue compte que sa roue était déboulonnée.
Journaliste en Bretagne.
Elle aurait pu mourir avec sa fille sur le trajet de l'école. Il y a aussi un activiste contre Monsanto qui a été séquestré et roué de coups. Il y a le neveu de Julien Leguet, le porte-parole des Bassines, qui pareil, a été roué de coups quand il rentrait de son jogging. Enfin, il y a des militants écolos qui meurent tous les jours, en fait, dans le monde, à cause de la lutte pour laquelle on se bat. Mais c'est normal qu'il y ait une réponse violente, parce qu'on on remet en question, en fait, le système économique actuel, et il y a des intérêts privés très forts.
Est-ce que c'est pas un échec, finalement, si vos actions arrivent à susciter, in fine, d'autres formes de violence, et peut-être là, pour le coup, des violences corporelles sur les personnes? François Jarry,
moi, ce que je veux juste rappeler, c'est que toute l'histoire des luttes écologistes depuis les années 70 sont des luttes pacifiques. Il y a pas de mort provoquée par des écologistes.
Donc, mais est-ce que ce qu'est une infrastructure comme la Farge, c'est pacifiste?
Non, mais évidemment, dans ce cas-là, comme dans d'autres, il y a certains militants qui décident de passer à l'action, donc de détruire du matériel. Mais il y a un moment, il faut aussi... les investissements de la Farc, les moyens financiers de la Farc sont considérables. Donc évidemment, ils vont monter en épingle quelques attaques, quelques destructions, que je défends pas forcément. Mais il faut juste rétablir les choses. Aujourd'hui, les activistes dans le monde qui sont le plus persécutés et opprimés, c'est les activistes écologistes. Alors, à une bien moindre échelle en France, évidemment. Mais vous allez en Amérique latine, vous allez dans plein de
Même aux États-Unis d'ailleurs.
Aux États-Unis,
la répression commence aussi à se sentir.
Et c'est ce qu'on découvre aussi en France. Et il se passe ça aussi en France. Et les soulèvements de la Terre, c'est alerter. C'est pas possible que dans le contexte actuel, il y a des gens qui vous écrivent pour vous dire ce que je veux, c'est aller taper à la baramine sur un militant écologiste. C'est-à-dire qu'il y a un problème.
Florian Lemerle, un autre message de Gilles qui nous dit les soulèvements de la Terre se discréditent complètement en s'opposant à des projets utiles pour l'environnement comme le Lyon-Turin irresponsable, écrit-il. Alors ça, c'est intéressant comme discussion à avoir parce qu'effectivement, vouloir construire une ligne ferroviaire, c'est lutter aussi d'une certaine manière contre le réchauffement climatique en émettant moins de gaz à effet de serre et pourtant vous luttez contre...
Alors ça tombe bien, très bien, parce que j'ai beaucoup bossé sur le dossier, mais en fait sur Lyon-Turin il y a déjà une ligne qui permet de transporter des marchandises qui n'est pas utilisée haut niveau, ouais, pourrait l'être, et qui pourrait transporter beaucoup plus de marchandises s'il y avait des infrastructures qui étaient réalisées en amont. Après, il ne s'agit pas de se focaliser sur un projet d'infrastructure en particulier, mais de regarder, nous on n'est pas contre le fret, au contraire, dans la mobilisation du 17-18 juin en Maurienne contre Lyon-Turin, justement, il y a Sudrail, qui est co-organisateur avec nous de la mobilisation et qui est actuellement le fer de lance de la lutte contre la liquidation de fret SNCF. Mmh. Donc ce sont nos alliés et on organise cette mobilisation ensemble. Et eux nous disent que la ligne actuelle pourrait, et en fait déplorent aussi qu'il n'y ait pas... En tout cas, les gens qui nous critiquent pour être mobilisés contre le Lyon-Turin ne se mobilisent pas contre la liquidation de fret SNCF, notamment, par exemple, tout ce qui est le lobby de la Transalpine, et qui, eux, ne se mobilisent pas du tout pour la défense du fret. Donc, c'est un peu...
Et on le disait hier, la situation de la France sur la question du fret est difficile en ce moment, avec l'Europe, effectivement, qui a condamné les financements.
C'est amusant de présenter le Lyon-Turin comme une solution écologique. C'est-à-dire que, en fait, c'est la ligne qui existe est sous-occupée, et l'enjeu, c'est de diminuer indéniablement le transport de marchandises. Mmh. Donc là, quand on fait ce genre d'infrastructure, ça va accentuer les mobilités, accentuer les flux de marchandises et les flux de matières qu'il faut faire diminuer. Donc il faut optimiser l'usage qu'on a actuellement des infrastructures, mettre évidemment le fret de façon massive, mais il faut aussi diminuer les consommations. Mmh. Il ne faut pas créer les infrastructures qui feront que demain, on consommera encore plus de matières à tous les niveaux. Mmh. Donc c'est en cela que... Ouais. Et je rappelle que les infrastructures ferroviaires, elles sont passées de 50 000 km à 25 000, 30 000 km aujourd'hui. Donc on a démantelé plein d'infrastructures ferroviaires parfaitement utiles, et on en construit des nouvelles qui sont inutiles et extrêmement coûteuses et extrêmement problématiques au niveau environnemental pour le massif alpin.
Allez, on verra dans un instant quelles sont vos limites, si vous en êtes mises d'ailleurs, sur vos modes d'action. Et puis il y a d'autres messages pour vous que je vous transmettrai dans un instant. Mais pour le moment, 14h37.
Je pense que les mouvements luttant pour le climat devraient seulement détruire des choses mortes, inanimées, des machines, des installations. Nous ne devrions jamais, et je pense que je ne connais personne qu'on dit qu'on devrait le faire, nous ne devrions jamais planifier des assassinats sur des patrons comme celui de Total ou des propriétaires des bassines. C'est hors de question. Le terrorisme, c'est quelque chose que vous avez expérimenté en France. Ce terme a un sens. Ce qu'il signifie, c'est l'assassinat indiscriminé de civils pour des motifs politiques. C'est ce qui est arrivé, par exemple, au Bataclan. Je n'appelle à rien de similaire à ça. Je ne connais personne autour de moi qui appelle à la même chose.
Le militant suédois Andreas Malm, qui est l'auteur de ce livre « Comment saborder un pipeline » et qui fait la distinction donc entre le terrorisme et le sabotage, jusqu'où justement pourraient aller les actions des soulèvements de la Terre. D'ailleurs, dans un film qui va sortir cet été et que vous avez vu, je crois, Léna Lazare, « Sabotage » inspiré du livre d'Andreas Malm, le réalisateur David Goldaber montre un groupe de militants qui fabriquent des bombes pour faire sauter un pipeline au Texas. Est-ce que vous pourriez aller jusque-là ou est-ce que c'est précisément votre limite ?
Je pense que tout le mouvement écologiste se retrouve dans la limite dont a parlé Andreas Malm, même si on peut comprendre que dans des mouvements sociaux d'ampleur, il y ait une réappropriation, qui ait une part de violence envers les personnes. Nous, on va pas faire d'action qui cible des individus. C'est intéressant pour les bombes.
Mais là, parce qu'ils ne ciblent pas des individus, là.
Oui,
ils ciblent un pipeline.
Que du coup, je dis, je partage ce point de vue-là, parce qu'on parle de violence depuis le début de l'émission, et je trouve ça intéressant aussi de replacer qu'est-ce que la violence. Pour moi, détruire une machine, ce n'est pas de la violence, c'est uniquement quand on s'attaque à des êtres vivants. Et concernant les bombes, en fait, c'est poser des bombes dans des endroits où les activistes étaient assurés que personne ne pourrait être blessé, c'est une pratique qui a été répandue en fait au cours de l'histoire. Dans le livre, il y a Contre-violence, un texte d'Isabelle Cambourakis qui a récemment traduit le livre du même nom de Françoise Daubonne, penseuse de l'écoféminisme, militante antinucléaire, qui a posé une bombe justement...
En 75 à Fessenheim, sur le chantier de Fessenheim en tout cas, et qui a permis d'ailleurs à ce que le chantier soit reculé en temps, ça fait perdre beaucoup de temps à l'époque.
Et c'est intéressant, le contre-violence de Françoise Daubonne, c'est un peu notre désarmement à nous. Et donc toujours dans ce truc de on réagit à une violence, et là le film est américain, et c'est vrai que le Front de Libération de la Terre, donc qui est un mouvement, justement, c'était le premier à être qualifié d'éco-terrorisme, qui a fait des centaines et des centaines d'actions d'incendies ou de destruction d'infrastructures polluantes, et ils n'ont jamais blessé une seule personne. Donc je pense qu'il y a, en effet, il y a cette volonté de détruire le plus possible ce qui est en train de nous broyer totalement au vu de l'urgence, en sachant que voilà, là on n'a plus du tout le temps et que ces émissions, il faut qu'elles cessent rapidement, et ça peut être justement en allant exploser des pipelines, ou en allant débâcher des mégabassines, ou en allant poser des bombes.
Mais vous pourriez envisager, au soulèvement de la Terre, de fabriquer des bombes pour les faire exploser ?
Pour l'instant, c'est pas du tout dans les projets, mais je pense qu'en tant qu'activiste écolo, en effet, on se dit que tant qu'il n'y a pas d'atteinte aux individus, c'est des choses qu'on peut envisager, et c'est sans doute des questions que vont se poser d'ici quelques années, très sérieusement, des militants écologistes.
Florian Lemaire, là, donc il y a de quoi inquiéter, effectivement, parce que quand on parle de dégonfler des pneus du SUV ou de construire des bombes, on n'est plus du tout dans le même registre, là, quand même. Hein.
Oui, bien sûr. Après, on n'a pas du tout ce genre d'échange. Moi, ce que je voulais rajouter, c'était surtout que les gestes de désarmement qui sont produits sont jamais indiscriminés. C'est toujours réfléchi. Par exemple, quand on va débâcher une mégabassine, on ne met pas en danger la vie de centaines de milliers de personnes, comme on pourrait le faire quand on va, par exemple, détruire un méga transformateur ou je ne sais quelle infrastructure vitale pour le pays. Là, en tout cas, on va s'attaquer à des infrastructures qui accaparent des ressources pour des intérêts privés. Par exemple, aussi, quand il y a des usines Lafarge qui sont démantelées, c'est pour dénoncer la pollution qu'elles produisent pour fabriquer du béton, qui est un matériau pas du tout essentiel et qui artificialise.
En tout cas, il y a des messages très clairs. Mais voilà, il y a des messages très clairs au sein de votre mouvement, précisément sur les limites à ne pas dépasser.
Mais en fait, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de. Enfin, les actions qu'on mène, elles sont réfléchies. Jamais eu d'idée de faire des bombes ou je ne sais quoi. En tout cas, par exemple, c'est pas notre action, mais par exemple, à Bouc-Bélair, il n'y a pas eu d'incendie. C'était c'était quand même une violence contre du matériel qui était maîtrisé. Pareil, sur les mégabassines, il n'y a pas la volonté, en tout cas, de...
C'est qu'on veut être accessible, pour finir. Nous, on fait des actions impactantes matériellement, mais c'est toujours des choses qu'on fait déjà à plusieurs centaines de personnes qui sont vraiment accessibles, et on veut justement, même si les actions clandestines, on pense qu'elles sont importantes, c'est pas ce qu'on veut porter particulièrement avec les soulèvements de la Terre.
Aline me fait le reproche de n'être que l'avocat du diable, donc je vais quand même donner des messages positifs pour vous. François nous dit, vous êtes autant terroriste que l'étaient les résistants pendant la guerre qui détruisaient les infrastructures allemandes, c'est-à-dire que vous êtes en fait des résistants. Continuez, moi à 56 ans, je pense à mes petits-enfants. Qu'est-ce que vous lui répondez,
François? Il a raison. Moi, j'avais bossé sur des mouvements ouvriers au 19e siècle qui détruisaient des machines. Donc, il y a évidemment
des ludistes.
C'est voilà.
Vous en parlez d'ailleurs dans ce livre.
J'ai fait une petite entrée. C'est un abécédaire, ce livre.
Oui,
donc, chaque auteur s'approprie une lettre et un mot. Mais je veux dire, et la question se posait déjà au 19e siècle, quand les ouvriers écrivaient, faisaient appel aux autorités, quand ils n'étaient pas entendus, il arrivait qu'ils détruisent des machines. Et il arrivait même que les tribunaux les acquittent par compréhension de ce qu'ils faisaient, en disant c'était des violences contrôlées. Il y a un historien marxiste qui s'appelait Eric Hobsbawm qui parlait de négociation collective par l'émeute. Dans certains contextes où toute négociation devient impossible, l'émeute et la violence peut devenir légitime. Et en fait, c'est même pas un appel à la violence, c'est un constat sur l'histoire des mouvements sociaux, sur l'histoire de la démocratisation de nos sociétés qui a toujours passé par là. Que ce soit les mouvements féministes, le mouvement ouvrier, il a toujours passé par des formes d'action directe plus ou moins violentes. Les soulèvements de la Terre, je tiens à rassurer les auditeurs n'appellent et n'appelleront pas à des violences contre les personnes. En revanche, ils acceptent une forme de violence sur certaines infrastructures, sur certains objets matériels. Et ce terme de désarmement est quand même extrêmement pertinent et intéressant, puisqu'il s'agit d'une contre-violence. Il s'agit de réduire une violence qui est effective et que tout le monde observe aujourd'hui. Et il s'agit de la limiter en démantelant, en démontant. Mais on peut démonter sans être violent, hein. Il suffit d'être un peu technicien et habile. On peut desserrer des boulons, et c'est ça en fait aussi. Donc la violence, vous voyez, c'est un spectre qu'on manipule dans tous les sens pour faire peur l'auditeur. Et il faut que l'auditeur, je crois, se rassure. J'ai Léna en face de moi, elle a pas du tout l'air violente. Les manifestations auxquelles j'ai participé étaient totalement pacifiques. Et les soulèvements de la Terre, c'est des milliers de gens qui se rassemblent pour protester et occuper des espaces pour les protéger. C'est des gens qui veulent préserver, qui veulent protéger, qui veulent sauver ce qui peut encore l'être. C'est ça. Donc c'est l'inverse d'un mouvement violent. Mais si pour faire ça, il faut accepter des formes de violence, en fait, on s'inscrit dans la tradition. Tout tout à fait classique de l'histoire des mouvements sociaux, des mobilisations collectives.
Vous rejoignez le message de Xavier sur franceinter.fr. Il dit les questions que vous posez et relayez ne sont que focalisées sur la violence et à charge. On se croyait sur BFM TV. À quand les questions sur les racines des luttes, l'atteinte d'un sentiment d'impuissance, de tous les modes d'action classiques sans toucher physiquement aux intérêts de tous ceux qui menacent la vie sur terre et en mer? Florian Lemerle, vous
Effectivement, comme
répondez.
On disait au début, sur le ce qui nous pousse à désarmer des infrastructures, le fait de ne pas être écouté, le fait que les infrastructures soient imposées, quand on voit par exemple toutes les catastrophes écologiques là qui s'enchaînent, même aux États-Unis, on voit qu'il y a des méga-feux au Canada qui polluent l'atmosphère. Tous les jours, on a des exemples de la situation catastrophique dans laquelle on est, donc c'est normal à un moment donné que les gens s'énervent. C'est aussi normal, à un moment donné, que les gens deviennent violents.
Fabienne nous dit « À 60 ans, j'ai participé à de nombreuses actions pacifiques avec quelques succès, beaucoup d'échecs. Je soutiens les soulèvements de la Terre. C'est le réchauffement climatique qui va rapidement être très violent et va, j'en ai peur, nourrir les gouvernements autoritaires qui sont déjà à l'œuvre. » Ça, c'est un des risques réels, François Jarich, que la démocratie soit balayée par les conditions invivables sur Terre aujourd'hui.
Je sais pas, mais c'est un horizon possible qu'on observe de plein de manières. Il y a des gouvernements autoritaires qui pullulent partout dans le monde, et ces gouvernements autoritaires utiliseront les contraintes écologiques pour s'installer. Les soulèvements de la Terre, c'est un contre-mouvement qui est fondamentalement démocratique, je tiens à le rappeler. Certains imaginent parfois que c'est une sorte d'organisation verticale avec des chefs qui dirigeraient. Pas du tout. C'est l'alliance, c'est la visibilité de luttes locales qui s'auto-organisent et qui essayent de se coaliser pour se donner plus de force et se rendre audible dans les médias. Parce que là, on est dans un média et c'est difficile de venir parler dans les médias. Et beaucoup d'activistes, beaucoup de militants, beaucoup de gens qui réfléchissent à ces questions ne se sentent pas représentés dans les médias. Et la force des soulèvements de la Terre, c'est d'avoir été une petite lumière qui a montré à plein de gens que beaucoup partageaient ces mêmes préoccupations. Donc c'est vrai que c'est absurde de polariser sur les violences, il y aurait de choses à dire. Et en plus, c'est vrai que si on se met dans une perspective historique, l'histoire des conquêtes sociales est toujours passée par l'acceptation de formes de radicalité. Radicalisme, ça veut juste dire aller à la racine des choses. Les soulèvements de la Terre vont à la racine des choses, sortent de l'espèce de novlangue permanente qui obstrue le débat écologique et repose le débat. Qui aurait parlé des méga-bassines s'il n'y avait pas eu les soulèvements de la Terre? Qui aurait parlé de cette autoroute en construction totalement absurde entre Toulouse et Castres s'il n'y avait pas eu les méga-bassines? Je veux dire, ils ont eu un rôle politique, démocratique,
Léna
citoyen
Lazare,
majeur. Quoi.
Vous qui souhaitez devenir paysanne, si j'ai bien compris, ça c'est un de vos grands succès finalement, c'est d'avoir fait entrer la question des méga-bassines dans le débat public quand même.
Oui, carrément. C'est vrai que il y a 2 ans, quand j'ai appelé des journalistes pour venir à notre première action, ils disaient mais oh là, c'est un débat autour des moyens d'irrigation entre agriculteurs. Enfin, personne ne comprenait un peu pourquoi ce sujet devrait être un sujet de lutte majeure. Après, je pense que les sécheresses très concrètes qu'on a pu ressentir ont fait aussi que le sujet a émergé. Mais c'est vrai que via nos actions et via aussi, en fait, il y a quelque chose de très joyeux dans les mobilisation des soulèvements de la Terre, parce qu'on se rend enfin compte qu'on peut reprendre du pouvoir sur nos vies. Et quand on se rend compte que justement à plusieurs centaines, on peut démanteler une méga bassine légale comme à Cranchaban, on se dit mais ok, bon, ça faisait plusieurs années que j'étais totalement déprimée parce que j'allais aux marches climat, parce que je signais des pétitions, parce que je faisais de mon mieux, mais en fait je me rendais compte que ça n'avançait à rien. Et là je vois que je suis dans un mouvement qui porte des choses très belles. Et je pense qu'aussi la question démocratique, en effet, elle est au cœur en fait de ce mouvement là parce que si ces luttes elles démarrent souvent, c'est à cause d'un déni de démocratie. C'est que les gens, ils ont participé à des enquêtes publiques, etc. Et en fait, que les projets passent en force. Et aussi que par la lutte, on pose... On crée une culture de résistance et on pose les débuts en fait de la société juste et écologique vers laquelle on souhaite aller, qui sera profondément démocratique.
Florian Lemerle, un message de Marie, toujours sur le site de l'émission. Je trouve ce mouvement, votre mouvement, très intéressant pour faire avancer la cause écologique. Malheureusement, si on ne fait pas des actions musclées, rien n'avance. Je vis en Île-de-France, personne ne change de comportement. C'est consternant, dit-elle.
Qu'est-ce
que vous lui répondez?
Oui, parce que je disais juste avant, c'est qu'au bout d'un moment, si on fait pas preuve d'un certain niveau de violence, de radicalité, si on désarme pas, si on s'oppose pas aussi d'une certaine manière au dispositif policier qu'on a en face, en fait rien ne bouge et on parle pas des sujets et après moi je voulais ajouter quelque chose, c'est aussi tout ce dont on parle pas, c'est-à-dire tout ce qui vient avec toutes ces actions contestataires qu'on porte, c'est-à-dire il y a, comme disait Léna, un peu en germe, plein de choses qui se passent au sein des mobilisations, par exemple sur la dernière manifestation contre les méga-bassines, il y a un collectif de cantines qui s'est créé, qui peut nourrir 8000 personnes lors des mobilisations, il y a des camps qui peuvent accueillir des dizaines de milliers de personnes qui se montent en quelques semaines. Il y a du matériel.
Donc il y a des choses concrètes. C'est voilà, pas que d'aller avec une baramine sur
L'aspect contestataire vise aussi à autre chose.
François Jarige, comment vous expliquez pour l'instant la non-dissolution des soulèvements de la Terre, alors qu'elle était très fortement espérée par Gérald Darmanin? Qu'est-ce que ça dit, au fond?
Mais parce qu'on ne dissout pas un soulèvement. Parce qu'on ne dissout pas un soulèvement de la Terre. On ne dissout pas le fait que des tas de gens essayent de trouver des moyens d'action pour résister à ce qui nous arrive.
Qu'est-ce qui bloque?
Mais ce qui bloque, c'est que ce n'est pas une association. On ne peut dissoudre qu'une association avec un président, un trésorier, un statut. Il n'y a pas d'association. Les soulèvements de la Terre, c'est un mouvement qui agrège des tas de collectifs différents. Donc, qu'est-ce que vous voulez dissoudre? Il faudrait peut-être dire aussi que dans la foulée de l'annonce de la dissolution, plus de, je sais pas combien on en est.
100 000 personnes.
100 000 personnes ont signé et 170 comités locaux des soulèvements de la Terre se sont créés un peu partout en France. Mmh. C'est-à-dire des gens se sont rassemblés, réunis pour créer un comité local des soulèvements de la Terre pour interroger, questionner, réfléchir à ce qui se passait sur leur propre territoire. Et ça, comment vous voulez dissoudre 100 000 personnes et ce mouvement écologiste? C'est le mouvement écologiste d'aujourd'hui, en fait, les soulèvements de la Terre. Comment
Léna
vous voulez dissoudre ça?
Lazare, très vite, parce qu'il nous reste moins d'une minute, il y a d'autres actions à venir. Vous n'agissez jamais clandestinement, donc vous annoncez toujours ce que vous allez faire. Ce sera le cas ce week-end, la semaine suivante et tout l'été. On peut en dire un petit mot très vite.
Dimanche, 11 juin, 9h, Saint-Colomban au sud de Nantes et Éric au nord de Nantes, on va se battre contre les carrières de sable, donc notamment de Lafarge et de GSM.
En juin, le 17, ce sera à Maurienne.
Et oui, ce sera donc contre le Lyon-Turin dont on a parlé. Mmh. Et pour finir, c'est le retour des actions contre les méga-bassines. Il va y avoir un convoi de l'eau, donc un convoi en tracteur et à vélo de Sainte-Soline à Paris qui va démarrer le 18 août et qui sera jalonné de plein d'actions. Et on a aussi une campagne d'action décentralisée, 100 jours pour les sécher, avec beaucoup d'actions qui seront proposées dans les comités locaux contre les accapareurs de l'eau.
Voilà, et pour lutter aussi contre la sécheresse, qui va être un des sujets évidemment saillants de cet été 2023. Et vous commencez donc le 13 juin cette campagne de 100 jours de mobilisation contre la sécheresse. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus. Demain sort On ne dissout pas un soulèvement, donc cet ouvrage au seuil, 40 voix pour les soulèvements de la Terre.
Et je dois dire que les droits vont être versés aux associations écologistes.
Merci beaucoup à tous les trois.